Madrid, Madrid, le prix que je paye, c'est encore quelques heures sans sommeil pour me souvenir de toi. Puerta del Sol, station du métro, sortie vers la Plaza Mayor. Je suis à l'heure, je crois même que j'en fais trop, une vraie doublure dans un décor. Madrid, Madrid, tu peux me faire signe, tu peux brouiller mes mots sur la ligne quand je parlerai de toi. Jusqu'au dernier détail. Ses yeux derrière un éventail. Madrid, Madrid, les choses que je prends sont un petit air d'accordéon rose quand elle n'est pas avec moi. C'est encore quelques heures sans sommeil pour me souvenir de toi. Toda una tarde en el retiro, echando piedras a un farol. Els meus amors se han derretido con tanta luz y tanto sol. Madrid, Madrid, me pongo triste al verlo bien. Dans le désert, des traces de poudre et de safran. Des taxis blancs, des claquements de portières, un vrai mélange de sentiments. Madrid, Madrid, me desesperas, de tanto mover las caderas, se van a reír de ti.
Notre forêt est sauvée, nous n'avons plus rien à craindre.
Miyori a accompli sa mission.
Oui, mais avec votre aide, la déesse du cerisier avait raison.
D'autres hommes de leur espèce peuvent revenir dans 10 ans, dans 50 ans ou dans 100 ans.
Bokuriko sera là pour vous aider, en attendant les vrais aigles dorés.
Et pourquoi moi?
Ne te fais pas tirer dessus, hein.
C'est facile à dire, ça.
Ne vous en faites pas, les amis. Nous arriverons toujours à les repousser.
Miyori, est-ce que tu vas rester ici avec nous?
Oui, maintenant que j'ai découvert cette forêt. En automne, en hiver et au printemps, j'ai pas l'intention de rater l'été.
Le cerisier refleurira l'année prochaine.
Mais toutes les saisons sont jolies ici.
Regarde ça. Elles sont magnifiques, ces feuilles. Ce n'est pas si mal d'être une divinité protectrice. Est-ce que je saurais vraiment préserver cette forêt? J'y arriverai, avec l'aide de chacun. J'en suis sûre.
C'est le numéro 232 et aujourd'hui ben, on va commencer par un agenda proche et lointain et puis ensuite on fera une revue de presse du journal Sans Abri qu'on trouve sur le marché de Die. On n'oubliera pas de signaler la soirée qui s'appelle Réfugiés dimanche à Die et puis on vous donnera aussi des informations plutôt sur la Guyane, terre de souffrance. Il y a eu au mois de mars des mouvements de révolte pour voir un petit peu l'histoire de cette colonie française et de ce petit bout d'Amérique du Sud. Et on sera en compagnie musicale de Emakio et de Alexis Aiguille pendant cette émission, entre autres, après avoir écouté, grâce à la suggestion d'un auditeur, Madrid, Madrid de Nilda Fernandez. Voilà, et c'est pour remplacer la suggestion d'un autre auditeur, mais j'ai pas trouvé la chanson qui me proposait. Mais tout n'est pas perdu, voilà, restez à l'écoute.
But I
Il est 19h38 sur rdwa.fr si vous nous écoutez en direct ou avec quelques minutes de décalage. Il y a toujours un petit peu de battement. C'est pas du vrai direct. Hein. On a quand même une petite marge. Et pareil, si vous nous écoutez sur le 107.5 en FM. Et tout ça pour dire aussi que toutes les émissions sont en podcast et sur rdwa.fr. Qu'on commence ce feu de tout bois du 18 mai, donc qui est pour l'instant en direct et en public, mais ça ne va pas durer longtemps, qui vous annonce la fête de la nature 2017, c'est du 19 au 21 mai. Donc aujourd'hui, voilà, c'est à partir de demain, hein, à la chapelle en Vercors, 3 jours en Vercors, un autre regard sur le renard et le monde sauvage. Alors j'espère que je ne l'ai pas sous la main, mais qu'on pourra vous passer un jour un petit documentaire sur 4 renardos de renards des Alpes qui naissent et puis qui, dans leur première année, qui grandissent. Et voilà, c'est très 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 joli. Donc, puisque ça commence vendredi, en fait, il y a des sorties nature et des animations ludiques avec des scolaires. Donc, dès demain, eh bien voilà, vous, si vous êtes à l'école, vous allez peut-être... déjà dans cette nature et dans cette fête de la nature dans le Vercors. Et alors, est-ce que vous resterez jusqu'à la soirée pyjama à 18h30, lecture et nature à la médiathèque CDI du Vercors? Donc là, c'est de 18h30 à soirée pyjama, ça peut durer tard, hein. Ça peut durer toute la nuit, suivant le nombre de lectures, on ne sait pas, c'est pas précisé sur le programme. Il y a une flèche avec des petits points qui vont, semble, aller très loin. Samedi 20, de 10h à 18h, c'est l'ouverture de la fête de la nature, avec des expositions, des stands, des ateliers, des animations, des sorties nature et des courts-métrages. 15 artistes exposeront leurs photos, sculptures et peintures pour partager leur passion avec vous. À 11h samedi, par exemple, cinéma L'odeur de l'herbe coupée, avec des échanges et un débat autour de ce film. Et l'après-midi du samedi, de 13h30 à 18h, des balades découvertes, nature et environnement. Et puis bon, bah du coup, voilà, faut être sur place pour avoir l'horaire des balades. Tout ça est gratuit, hein, je ne l'avais pas dit. Le samedi toujours, à partir de 15h, il y a un spectacle « Loupeau et le renard ». C'est de 15h à 16h. Et à 16h, ça enchaîne sur encore un film « Le clan des renards ». Et avec là, la présence du réalisateur avec qui ce sera possible d'échanger. Et le samedi soir, à 19h, une soirée festive... Apéro, jazz manouche, repas partagé, bal folk et alors c'est marqué buff. C'est une sorte de bœuf du Vercors. Donc n'hésitez pas à vous y rendre avec vos instruments. Et puis si vous venez avant le concert, vous pourrez voir les 20 exposants exposantes qui animent la fête autour de stands associatifs, d'ateliers manuels et de ventes artisanales. Donc n'hésitez pas, je pense, à aller faire le 21e aussi, hein, et vous serez peut-être même plusieurs. En tout cas, ça continuera le dimanche 21 avec des expositions, des stands, des ateliers, des animations, des sorties nature et des courts-métrages. Donc il y aura Blanc Velours et Je suis un nuisible avec les réalisateurs. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ou qui veulent revoir L'odeur de l'herbe coupée, eh bien, il repassera aussi à 11h le dimanche 21. Il y aura encore des balades découvertes nature-environnement là tout l'après-midi du dimanche. Et à 10h, alors là c'est un événement qui nous concerne beaucoup à Radio Diwa, ouverture de la radio La Tanière du Renard, récolte de paroles pour des voix sur un plateau. Donc ben moi je vous annonce, je crois qu'il y a aussi une interview de RDIWA sur la fête de la nature, donc vous pouvez la télécharger et l'écouter. Et vous pourrez écouter une prochaine Des Voix sur un plateau, donc l'émission qui revient là. Qui s'était transformé en Des Voix sur des plateaux de vélo. Enfin bon, on peut parler un peu des autres émissions, mais on va aussi finir de parler de cette fête de la nature dans le Vercors, à la chapelle en Vercors, puisque le dimanche soir, de 16h à 17h30, il y aura la Vallée des Loups. Et bon, tout le week-end, buvette et restauration sur place, de 10h à 23h. Pour y aller, eh bien, la chapelle... La chapelle en Vercors, et puis du coup la popote à coût raisonnable est même annoncée dans le programme. En plus des commerçants locaux, le champ des gamelles débarque. Une équipe de producteurs cuisiniers bio locaux propose leur popote à coût raisonnable. Le kit du festivalier, est-il précisé sur le programme, un vêtement chaud, des chaussures de marche, un instrument de musique sauf guimbarde et une bouteille d'eau. Voilà. Alors peut-être qu'il y a un gag par rapport à la guimbarde. Je ne sais pas. Ben voilà, ça a l'air séduisant, hein. Puis il est tellement mignon. Je m'adresse à ce soir, l'émission est en public, alors je montre le programme au public. Ce fly est disponible sur le présentoir de Erdiwa, qui est ouverte demain aux heures de bureau. Voilà. La fête de l'ESCDD, de l'espace social, c'est le 9 juin 2017. À la salle polyvalente de Die, et dès 18h30, il y a des animations, un repas partagé, un concert, des DJ, tout ça est à prix libre. Alors c'est encore un peu tôt pour vous annoncer le 9 juin, mais n'hésitez pas à y aller, à aller à l'espace social pour vous proposer comme bénévole, voilà, partager une réflexion, un moment de musique, une animation quelconque. N'hésitez pas donc à vous manifester à l'espace social de Die et du Diwa et culturel. Cette soirée est ouverte à toute proposition. Donc là encore, pendant les horaires d'ouverture du lundi au vendredi, donc vous pouvez y aller demain. À la médiathèque, il y a plein d'animations autour du numérique. Donc là, je ne m'étendrai pas, puisque il y a aussi une interview sur rdwa.fr que vous pouvez télécharger. Je vous rappelle les dates. En fait, c'est en avril et en juin. Ça a commencé en avril. Donc qu'est-ce qui reste ? Il reste juin. Ben voilà. Hein, puis c'est ça, puisqu'on est au mois de mai. Non, il y a quand même encore une exposition. Et puis voilà. Mais ce qui m'incite à vous en parler aussi, c'est On vous dit pas tout, qui est une exposition qui est un jeu de mots avec le patou, le chien de berger, et qui est fait par Valentine Guérin et Hélène Turling, qui ont fait un film et qui présentent leur film et qui seraient présentes le samedi 24 juin. Mais alors, oui, moi je disais, on vous dit pas tout parce que la question qui n'a pas été posée dans l'interview que vous pourrez écouter en podcast sur rdwa.fr, c'est qu'il s'agit du numérique, mais le problème, c'est, alors à moins que ça ait été corrigé depuis, mais je n'y suis pas retourné pour voir, je dois dire, c'est qu'on a la Wi-Fi dans la bibliothèque, médiathèque de Die et du Diwa. Ce qui fait qu'en fait, il y a carrément des gens qui ne peuvent pas y aller, alors que ce serait possible de tout câbler. Alors peut-être que c'est en cours, peut-être que... Mais c'est dommage sur une série sur le numérique, justement, de ne pas aborder cette question, ou alors, si jamais le problème a été résolu, de ne pas l'indiquer sur le programme, afin que les personnes qui savent qu'il y a... la Wi-Fi à la médiathèque puisse se dire « Ah ben, c'est bon, enfin, je peux aller à la médiathèque. » Ce n'est pas un four micro-ondes qui fait quand même des ondes qui sont nocives pour le cerveau, ce qui est dommage dans un lieu de culture. On continue le programme le samedi 20 mai, donc de après-demain, à l'Andarta. Jean-Loup Pinto commencera la lecture publique de son premier roman, Le livre de Lugue, roman initiatique se déroulant presque entièrement dans le Diwa. Ce livre, écrit en 2000, prend une résonance particulière actuellement. Et l'entrée est libre, en tout cas. Et c'est à 17h, samedi. Je continue pour vous dire que vous avez peut-être déjà vu des affiches. Le 1er juillet 2017, le 1-1-17, c'est peut-être un samedi, c'est à Barnave, et ce sera la soirée Moustache, en tout cas, puisqu'il y a écrit « Prépare ta moustache ». Je voulais vous parler aussi des agités du local qui continuent leurs animations pour l'instant. Alors, je citerai par exemple la chorale d'émeute le mercredi soir, les ateliers d'écriture les mardis soirs, et peut-être à d'autres, la communication consciente dont on a déjà parlé à l'antenne. Et c'est une fois par mois. Alors là, je ne l'ai pas, mais je vous donnerai un programme plus détaillé tout prochainement, tout bientôt en fait, juste le temps que je le prenne sous les yeux. Voilà, il est temps de revenir après cet intermède, toujours avec Emma Kyo et aussi Alexis Aigi, au programme tant attendu des agités du local, puisque dès demain, dès le 19 mai, il y aura Foro della dès 20h30. Pour 5 euros, et puis l'adhésion à prix libre à l'association Les Agités, si vous n'y êtes toujours pas. Clémence Satia et Rome vous accueille pour un apéro à partir de 19h, suivi du concert à 20h30. Voilà, ça c'est le 19 mai. Une semaine plus tard, le 26 mai, ça doit être un samedi aussi, scène ouverte, à tout âge, à toute expression, bienvenue à vous. Venez simplement en tant que spectatrice, curieux, ou venez aussi en tant que je sais pas quoi, n'hésitez pas. Et puis aussi pour les personnes qui voudraient en profiter pour une répétition publique, se lancer, s'amuser, improviser, partager son travail en cours, offrir un travail abouti, faire connaître son travail ou ses futures dates ou recherches de dates, tout est envisageable, le jeu, 15 minutes maximum sur scène pour chacun, chacune, en une, deux ou trois passages maximum. Une boisson offerte à chaque participant, participante, et une inscription en amont souhaitée auprès de JIS 06652646683 ou Yann 06853827646. Vous pouvez aussi vous inscrire sur place et donc l'entrée sera à prix libre pour tous, en tout cas ce soir-là. Je répète, c'est samedi en 8, samedi 26 mai. Et le 27 mai, le lendemain, nos trois potières céramistes, Hélène, Camille et Juliette, seront présentes sur le marché des potiers et des potières apparemment, hein, je pense, à 10 avec plein d'autres artisans. Alors du coup, on ne sait pas s'il y a aussi des artisanes, en fait, il faut, voilà, ou des artistes de talent. Le 3 juin, grosse fiesta DJet. Toutes les infos dans la prochaine lettre mensuelle de juin. Alors vu que c'est DJet, on ne sait pas s'il y a aussi des DJ, puisque voilà. Appel aux animateurs, animatrices. Ah là, par contre, c'est tout le monde. Des créneaux sont disponibles à la rentrée pour pratiquer et faire découvrir votre passion. Des ateliers sont proposés toute la semaine de septembre à juin pour tous et toutes. Si vous avez des envies, faites-nous signe avant le 27 juin. Nous avons aussi des dispos ponctuellement. N'hésitez pas, Rome est dispo les jeudis matins de 9 à 12 heures. N'hésitez pas pour vous accueillir. Sinon, envoyez un mail. Et bah oui, à tout bientôt. Rome habite tous les jeudis matins, donc dès jeudi prochain. Mais j'espère que vous serez nombreux, nombreuses à aller rencontrer Rome et partager un petit déj, un grand déj, et voire même un repas de midi, puisque ça se finit à midi. N'hésitez pas à aller aux Agités du local, un lieu très très chouette. Et puis maintenant que les beaux jours sont là, il y a une petite cour intérieure. Je ne vous dis pas. Bon, bah, si c'est pas de la promo pour les Agités du local, je ne sais pas quoi faire. Alors je vais passer à une autre soirée qui est la rencontre avec Emmanuel Mbolela à la Bonnetterie le 21 mai à 18h30. Alors c'est dimanche, ok, mais c'est 18h30, donc voilà, n'y allez pas tard. Et c'est une présentation du livre « Réfugiés, une odyssée africaine » d'Emmanuel Mbolela, témoin des conditions des Africains et des Africaines bloqués aux portes de l'Europe. La discussion sera suivie d'un repas à prix libre. La Bonnetterie, c'est 8 rue des Aqueducs, c'est-à-dire, et voilà, l'entrée aussi sera à prix libre. Et je vais vous lire une présentation donc de cette soirée, puisque je l'ai sous les yeux également. Persécuté pour des raisons politiques, Emmanuel Mbolela, né en 1973, a fui la République démocratique du Congo, c'est la RDC, ex-Zaïre, en 2002. Il a voyagé 6 ans, durant lesquels il a affronté les mêmes difficultés que des milliers d'autres migrants et migrantes. Rackets des douaniers, business des passeurs, embuscades dans le désert du Sahara, travail au noir à Tamanrasset pour financer la suite du voyage, et enfin la nasse marocaine où il est resté bloqué pendant 4 ans. Là, et c'est l'un des deux apports principaux de son récit, il a fondé avec des réfugiés congolais au Maroc, refusant ainsi Avec des compatriotes, la première association de réfugiés. Il a fondé l'ARCOM, Association des réfugiés congolais au Maroc, refusant ainsi le statut de victime muette et impuissante dans lequel on le tenait. L'autre intérêt de ce livre est de montrer, donc présenté par l'auteur, il me semble, oui, une rencontre avec Emmanuel Mbolela. L'autre intérêt de ce livre est de montrer combien les femmes subissent encore plus de violences et d'exploitation que les hommes tout au long du parcours, mais aussi comment ce sont elles qui sont à l'initiative des actions de résistance et de protestation contre les conditions indignes imposées aux réfugiés. Emmanuel Mbolela, qui lui est un homme, donc c'est Emmanuel EL à la fin, a fini par obtenir l'asile politique aux Pays-Bas en 2008. À partir de là, il a très vite rencontré des réseaux d'activistes pro-réfugiés en Allemagne, l'association AEI, Afrique Europe Interact, ce qui explique que son récit a été publié d'abord en allemand sous le titre « Mein Weg von Kongo nach Europa », qui a été publié par Mandelbaum Verlag en 2014. Depuis, donc les éditions de l'Amandier, c'est joli quand même. Depuis 3 ans, Emmanuel Mbolela a fait plus de 300 présentations de l'édition allemande de son livre en Allemagne, Suisse et Autriche pour alerter et informer l'opinion publique sur la situation dramatique dans laquelle se trouvent ces personnes qui fuient dictatures et guerres et qui meurent par milliers anonymement dans le désert et la Méditerranée à cause de la politique de fermeture européenne. Il cherche également des soutiens en Europe pour continuer à aider les associations de défense des réfugiés subsahariens et subsahariennes au Maroc, notamment la maison de repos et de protection réservée aux femmes migrantes à Rabat, qu'il avait ouverte avec des amis au moment où il y était. Aujourd'hui, avec la parution en français de son récit, Emmanuel veut entreprendre le même travail d'information et de sensibilisation en France et en Belgique auprès d'écoles et d'universités, de librairies, lieux de discussion, cafés associatifs, médias, etc. Donc Adi, c'est à la bonnetterie, c'est dimanche qui vient, c'est à 18h30, dimanche 21 mai, donc. Son édition française de son livre en français est éditée aux éditions Libertalia. Il fait 264 pages, le prix n'est pas indiqué. Si, il est pour 13 euros, les frais d'envoi inclus, et pour 20 euros, c'est un prix de soutien au bénéfice de la maison de refuge pour les femmes migrantes à Rabat. Donc, chèque bancaire ou postal à l'ordre de Forum Civique Européen. C'est cette adresse à Grange-Neuve, à Liman. Mais bon, vous pourrez en acheter sur place, prévoyez donc de la monnaie. Et peut-être qu'il sera aussi à la médiathèque de Die, ce serait une chouette suggestion. Et peut-être qu'il sera aussi à la librairie Mosaïque, notre librairie d'Oise, si vous ne pouvez pas vous rendre à la bonnetterie le 21 mai, 18h30. Voilà, c'est la soirée réfugiée. N'hésitez pas à y aller. Je crois qu'on en parle aussi dans les interviews de rdwa.fr, mais je n'ai pas vérifié. Et spéciale dédicace, ce soir, vous l'aurez compris, aux forêts. Pourquoi les forêts ? Parce que s'il y a des ZAD en ce moment, c'est parce qu'il y a encore des forêts. Donc on peut faire une spéciale dédicace aux forêts, et puis aussi parce que du coup on ne va pas du tout, bien qu'on soit en direct et qu'on soit vraiment dans l'actualité, vous parler du nouveau gouvernement, chose dont j'ai entendu parler vaguement à la radio, et voilà, car en fait on ne peut pas être une émission people, on aimerait bien être une émission people. Mais voilà, feu de tout bois, on parle d'actualité et tout ça. Donc il y a encore des forêts, ça c'est l'actualité. Et donc il y a encore une ZAD à Notre-Dame-des-Landes. Donc longue vie à cette ZAD, longue vie à toutes les ZAD. On se rappelle de la ZAD de Sivens qui a permis de mettre l'accent là-dessus et sur ce souci, et que le barrage soit, bien que la forêt ait en partie été rasée et que le barrage soit en partie construit, quand même de faire un barrage quand même plus petit, carrément plus petit que ce qu'il était prévu, et ce qui a démontré aussi au prix de la vie de Rémi Fraisse la violence policière qui est toujours d'actualité. Puisque voilà, la police tue encore aujourd'hui en France, et il y a encore des forêts. Voilà, ben, y a des choses négatives et puis des choses positives. Donc, allez, une petite dédicace pour les forêts.
Il y a bien longtemps, une graine éveilla la forêt. La forêt engendra un monstre. Un monstre au souffle pourpre et aux larmes vertes, qui tomba de la lune et sema la terreur parmi la population. Plus tard, une fois que les larmes du monstre eurent séché, les gens écoutèrent attentivement la voix de la forêt.
しよ
De retour avec Feu de tout bois. Après cet intermède, pour vous présenter le journal Sans abri pour lutter contre la précarité, qui est en vente pour le prix de 2 euros les mercredis et les samedis sur le marché Adi et peut-être aussi sur les vendredis, sur les marchés à Luc, à Châtillon, je ne sais pas, je ne suis pas du tout sûr. Ça, ce serait une information peut-être à nous communiquer. Car à chaque fois, il y a au moins un article intéressant. Et là, donc je l'ai acheté mercredi en disant voilà, je suis sûr d'avoir un article intéressant à lire. Et en fait, je crois que je vais vous citer le sommaire, car tous les articles sont intéressants. Donc on commence par qu'est-ce que la déflation ? Donc, les prix ont reculé de 0,3%, une tendance préoccupante car elle alimente le spectre du gel des salaires ou de l'augmentation des déficits. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de déflation, et puis et voilà, ce sera un point de vue sur ça. Une petite brève sur un fait de société. Homme à cheveux longs, homme à chignon, à l'inverse des filles qui cèdent à la tendance garçonne, les mecs se laissent pousser les cheveux et osent le fameux man bun comprendre de oui bun, c'est vrai que c'est le chignon pour monsieur. Voilà, il n'y a pas de photo, mais il y a quelques lignes. Et puis un article de fond sur les ados, entre guillemets, violents, précoces, désabusés, nos ados, méfions-nous des stéréotypes. En commentaire d'un fait divers ou dans une discussion entre parents, on entend parfois que la jeunesse d'aujourd'hui serait différente de celle d'hier, plus violente, happée par les nouvelles technologies, plus précoce sur le plan de la sexualité. Qu'en est-il vraiment? Et Florence Maillochon et François Beck et Ivana Obradovic, chercheurs et chercheuses, ont étudié les ados français. Et donc voici leur conviction, surtout se méfier des fausses évidences. Je ne vous en dirai pas plus. Deux pages à dévorer sur le sans-abri du mois de... Ben, c'est celui qui est en vente actuellement. Mais alors voilà, le mois n'est pas indiqué. Tiens, alors est-ce que c'est le mois d'avril ou en tout cas c'est le deuxième trimestre? Non, je sais pas. Mais bon, c'est celui que vous trouvez maintenant, à moins qu'il y en ait un nouveau qui soit arrivé, auquel cas vous pourrez peut-être demander l'ancien. Un article sur les plantes au secours des jambes lourdes. Bah oui, parce que ça, hein, quand même, les jambes lourdes, c'est bien désagréable. Donc voilà, quelques pistes. Un article sur une autre étude, qui est le baromètre annuel réalisé par Ipsos pour le Secours Populaire sur la pauvreté et... qui a ce titre, le spectre de la pauvreté effraie une majorité de Français. Donc par exemple, 86% des Français et Françaises sont inquiètes pour l'avenir de leurs enfants. 66% ont un proche dans la pauvreté. 31% des plus modestes ont renoncé à des soins. Donc par exemple, le seuil moyen proposé par les gens qui ont été sondés, qui serait le seuil de pauvreté, est de 1 070 €. Et alors que la moyenne officielle de l'INSEE, qui sert de base pour le calcul du RSA notamment, est de 977 €. Donc il y a 100 € de différence qui est analysée par Jérôme Vignon, qui est président de l'Observatoire national de la pauvreté, comme une vision réaliste des Français. Fin de citation. Et voilà, donc le peuple qui profite, non. Il survit. Donc voilà. Un article sur une plante africaine contre les maladies d'Alzheimer et de Parkinson, qui est utilisée depuis bien longtemps par des guérisseurs traditionnels et qui pourrait aussi soigner les suites de l'AVC. Encore une bonne nouvelle. Et donc, enfin, deux pages sur... Ouais, parce qu'il faut bien parler de mode quand même dans son abri. Octobre 1974, le jour où naquit la mode punk. Londres, un vieux jukebox dans la boutique Sex de King's Road. C'est ici que la créatrice britannique Vivienne Westwood bricole une mode punk qu'elle saura élever au rang de griffe, saluée par le milieu à l'aube des années 1990. Voilà, avec quelques photos aussi. Et puis enfin un article qui nous met en garde contre le fait de téléphoner au volant vous fait perdre la moitié de votre attention. Lorsque le conducteur est au téléphone, toutes ses actions sont ralenties, souligne une étude. Alors je n'ai pas lu l'article, les ondes électromagnétiques sont-elles abordé, mais en tout cas voilà, méfiez-vous du téléphone. Et puis la recommandation allez, de ce soir, c'est même de l'éteindre carrément pendant que vous êtes en voiture, pour éviter tout risque qui des fois peut faire arrêter le cerveau pendant un petit temps et faire avoir un accident. Donc prudence, si vous êtes conducteur, conductrice, N'hésitez pas, pour des raisons de sécurité, et en général, vos passagers et passagères comprennent très bien, de demander de couper vos téléphones portables. Et puis, si vous êtes passager, passagère, peut-être des fois, c'est plus dur de demander, mais n'hésitez pas à en parler, en tout cas, et voilà, au moins le mettre en hors ligne. Mais on sait qu'un portable hors ligne émet quand même moins, hein, certes, d'ondes nocives. Il y a des mots fléchés et il y a une demi-page de petites annonces écrites petits. Donc n'hésitez pas et vous aussi, vous pouvez passer votre petite annonce dans ce journal. Et puis aussi du Sudoku, voilà, si vous voulez. Sur votre radio RDIWA 107.5 FM. Il est bientôt 8h15. À 9h15, vous serez déjà en train d'écouter Melting Dub. Et à 10h, vous serez en train de commencer d'écouter HHPQ. Pour l'instant, vous écoutez Feu de tout bois.
Thank you.
On nous fait suivre une information aussi. Rappelez que jeudi, vendredi dernier, il y a eu une manifestation d'opposants gabonais dénonçant la corruption politique du régime d'Ali Bongo. C'était devant l'ONU à Genève. Une centaine d'opposants au régime du président gabonais Ali Bongo Ondimba ont manifesté jeudi dernier sur la place des Nations devant l'ONU à Genève, réunis à l'appel de l'association des Gabonais du Ranelag, un collectif de 10 associations qui manifestent chaque semaine à Paris depuis août 2016 devant l'ambassade du Gabon. Les manifestants ont remis un mémorandum aux autorités onusiennes à Genève, s'appuyant sur un rapport de l'Union européenne très critique à l'issue des dernières élections présidentielles au Gabon. Cette manifestation dénonce les arrestations arbitraires et les mauvais traitements dont sont victimes, selon eux, les opposants politiques au régime, sans parler de la tricherie électorale qui a permis au président Bongo de se maintenir au pouvoir. Le collectif est soutenu en France par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, nous dit-on aussi. Et en tout cas, on a des informations sur radiozone.com. Si vous arrivez à écouter l'interview, pour notre part, nous n'avons pas réussi à l'écouter, mais nous avons trouvé la page internet Radio Zone, R Radio comme radio, Zone avec un S à la fin, .com. Voilà, vous aurez plus d'informations. Enfin, vous aurez autant d'informations si vous n'arrivez pas à écouter l'interview, mais si vous arrivez à écouter l'interview, vous en aurez plus. Et voilà, c'est une des choses qui se passe en Afrique, hélas. Des informations, on va faire avec Union Pacifiste, cette fois de ce mois de mai 2017, le numéro 549, et vous dire vite fait le sommaire afin de vous donner envie d'aller le lire, voire de l'acheter pour le prix de 3€. À Andarta, où il est en vente, alors il est aussi en lecture au Café des Lys. Le sommaire de cette Union Pacifiste, et il y a des brèves. Bon, on aura le temps tout ce mois d'y revenir. Voilà, tous à Bruxelles contre l'OTAN. C'est les 25 et 26 mai, au sommet de l'OTAN. Un sommet de l'OTAN se tiendra à Bruxelles pour l'inauguration de son nouveau siège. Un collectif international organise à cette occasion, mercredi 24 mai, une grande manifestation dans Bruxelles pour la « bienvenue » entre guillemets à Donald Trump et pour demander la dissolution de l'OTAN. Et jeudi 25 mai, un contre-sommet dans des locaux du centre de Bruxelles avec débats, ateliers, projections de vidéos et témoignages, et il y a quand même pas mal de signataires de l'appel, dont l'Union Pacifiste de France, et puis par exemple sortir du colonialisme, les anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre, femmes égalité, femmes solidaires, iraniens contre la guerre, le mouvement de la paix, le mouvement pour une alternative non violente. Bon, voilà, il y a pas mal, vous retrouvez tous les signataires. Et puis le texte de l'appel dans Union Pacifiste à Andarta et au Café des Lys. Et aussi peut-être à d'autres endroits, je ne sais pas. Un article sur l'objection de conscience pendant la Première Guerre mondiale. Au cours c'est une présentation d'un ouvrage qui s'appelle « Conscription et conscience » d'après le livre de John W. Graham qui est sous-titré « Contribution à l'histoire de la guerre de 1914-1918 ». Et donc dans ce livre, il y a quelques exemples qui sont pris dans cet article de refus de cette guerre, aussi bien dans les pays anglo-saxons qu'américains, mais aussi ce qui s'est passé de ce point de vue en France pendant cette période. En Syrie, guerre et pacifisme dans la rubrique Visage de paix. À chaque conflit, les marchands d'armes accroissent leur chiffre d'affaires. On rappelle qu'en 2016, la France était deuxième exportateur d'armes au niveau mondial. Donc voilà, on peut dire qu'on est dans un pays qui fait la guerre, qui veut la guerre, et enfin en tout cas son gouvernement et ses marchands d'armes veulent la guerre. Alors que bah, là pareil, hein, si on demande à tout le monde est-ce que vous voulez la guerre, personne ne veut la guerre, donc on est carrément plus nombreux à ne pas la vouloir, et ils font du fric avec grave. Donc les États contournent les embargos, en profitent pour expérimenter leur matériel et savoir tuer. Aussi, parler de la guerre en Syrie est une tâche délicate. En effet, comment l'approcher sans trahir l'immense souffrance des victimes, sachant que nous parviennent principalement des informations tronquées et orientées. Cependant, voici quelques éléments non exhaustifs de ce conflit aux multiples visages, ainsi que le cri de pacifistes issus de ces régions ravagées par les gens en armes. Solidarité avec ces pacifistes en Syrie qui... Voilà, on en saura plus. C'est un article de Marie-Catherine Massebeuf dans cette même Union pacifiste. Bruno Barrio est mort à l'hôpital de Tahiti le samedi 25 mars. C'est un autre article qui s'appelle du nom de cette personne, Bruno Barrio. Il aurait eu 77 ans le 9 avril 2017. Il a été enterré en Polynésie. Il était revenu à Tahiti afin de réactiver la délégation du suivi des conséquences des essais nucléaires. Voilà, on se souvient de Paul Quiles, qui a été le dernier ministre de la Défense sous Mitterrand à faire à promouvoir ses essais nucléaires en allant se baigner dans le lagon quelques minutes, hein, bien sûr. Lui, il est toujours vivant. Maintenant, il est contre les bombes atomiques. Voilà, il est maire d'un village. Mais il ne renie pas son passé de déstructurateur de ce qui était à l'époque les PTT, un de ses hauts faits d'armes, et aussi quand il était ministre de la Défense, donc d'avoir fait de la pub pour les essais nucléaires. Mais là, il s'agit de Bruno Barrio, donc personne qui a œuvré inlassablement durant de très nombreuses années pour la levée du secret défense sur les essais nucléaires au Sahara et en Polynésie et pour la reconnaissance de leurs méfaits sur les populations et l'environnement. Donc voilà, on ne saurait trop recommander à Paul Quiles en l'occurrence et puis à tout le monde parce qu'on n'est pas forcément au courant du détail de ces questions, même si on sait que ben voilà, il y a aussi des problèmes géologiques maintenant en Polynésie suite aux essais nucléaires et que c'est une histoire qui continue de mettre l'accent sur le livre qu'il a écrit, Les Irradiés de la République, les victimes des essais nucléaires français prennent la parole. C'était le livre de Bruno Barrio et de lire cet article dans Union pacifiste. Une autre personne qui est morte, Dante Gatti, qui ne dira plus ses poèmes. Beaucoup d'entre nous, depuis 1938, n'avons plus jamais pensé à ce pays fraternel sans une secrète honte, car nous l'avons d'abord laissé mourir seul, et lorsque, ensuite, nos frères vaincus par les mêmes armes qui devaient nous écraser sont venus vers nous, nous leur avons donné des gendarmes pour les garder à distance. Nos frères d'Espagne, il s'agit bien d'eux, c'est une citation d'Albert Camus dans Combat du 7 septembre 1944. Et donc c'est un article de Serge Ugeroyo qui revient sur ce qu'a permis Gatti, enfin ce qu'a un peu des actions de Gatti par rapport à ces réfugiés espagnols ou par rapport à cette mémoire en tout cas. Un article sur Coluche président, plus de 30 ans après sa disparition, personne n'a oublié Coluche. L'hôtel de ville de Paris lui a rendu un bel hommage avec une exposition gratuite qui a duré plus de 3 mois et qui a été visitée par plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et là, on a donc plusieurs livres ont été diffusés à cette occasion. Et il s'agit ici de quelques phrases, blagues, pensées et anecdotes d'un clown toujours nécessaire. Et alors que ben voilà, l'article précise, surtout dans une période électorale française tragicomique. Donc profitons-en bien et puis on vous en dira peut-être dans des prochaines feux de tout bois. Puisque aujourd'hui, en tout cas, je voulais vous lire, peut-être après une pause, l'article qui est la double dernière page de cette Union pacifiste de mai, qui, je le rappelle, est consultable à Andarta, au Café des Lys, sans doute à d'autres endroits, et puis que vous pouvez aussi acheter dans ces endroits. sur la Guyane, terre de souffrance, et qui revient sur l'histoire de cette colonisation et ce qu'il en est actuellement. Donc là, je vous propose d'écouter l'article que je vais vous lire. Le temps de quelques annonces, quand même, puisque le 14 mai, il y aura le 4e salon du livre ouvert couleur d'orange, où l'Union pacifiste aura une table comme chaque année. C'est 9 rue Barbès, c'est dans le 9-3 à Montreuil. Ça s'appelle Couleur d'orange, c'est métro Robespierre. L'entrée est libre de 13h à 19h, dimanche 14 mai. Et puis il y a spectacle et lecture à 17h. Et puis il y a aussi des expos. Donc n'oubliez pas, dimanche 14 mai, la 4e salon du livre ouvert. Encore une annonce, c'est le samedi 13 mai, la veille. Et c'est la 26e fête de Mots et Musique au chapiteau de la Fontaine aux Images. C'est à Clichy-sous-Bois, toujours dans le 9-3, avec les chanteurs-livreurs Frédéric, Juja Lula, Rachel Sonalm, Béa Tristan et Sabine Virette. N'hésitez pas donc à vous rendre. Alors là, c'est écrit au chapiteau, mais on ne sait pas si c'est au chapeau. En tout cas, on peut demander des renseignements et réserver auprès de Patrick Kipper au 01-43-84-7004 ou au 06-17-701153. Et c'est l'association Mots et Musique, en tout cas, avec un tarif réduit à 12€ pour voir ce concert, donc avec 6 groupes ou chanteurs-chanteuses à partir de 17h samedi 13 mai. Et puis un autre événement anniversaire, les 35 ans de Radio Libertaire. Alors là, c'est avec ACAB, La Canaille, Céline Chaussimon, Chasing Bone, Joe Dahan, Dede Cabal versus Franco Marana, Dominique Grange, HK et les Saltimbanques, Romain Humeau, Lojo, Les Ocs de Barbac, Jean-François Pauvros, Sage comme des Sauvages, Sappho, Tao Ravao, La Toile, Eric Sterenfield, Tribac, Urban Sax, Zone Libre et Bruno Lott, Margerin, Laurent Nicolas, Tapage, Tardy, donc qui ne chantent pas mais seront présents. Radio Libertaire a le plaisir d'annoncer que la compilation pour son 35e anniversaire est parue en avril. La pochette est illustrée par Tardy, recto, et Bruno Lott, verso, Franck Margerin, Laurent Nicolas et Tapage ont illustré l'intérieur. Cette compilation sort sous la forme d'un disque vinyle 33 tours. Pas de panique pour celles et ceux qui n'ont pas ou plus de platine, un coupon de téléchargement est inclus et d'un CD bonus dont le contenu est différent du vinyle. En tout, 20 titres offerts par les artistes amis de Radio Libertaire qui ont répondu gentiment à l'invitation. Donc voilà, n'hésitez pas à vous procurer cette compile et puis on essaiera de vous en faire entendre aussi des extraits et des morceaux à Feu de tout bois ou dans d'autres émissions de RDWA. Comptez-y bien. Allez, encore un hommage aux forêts pour aujourd'hui. Ben voilà, je vous laisse écouter.
Tu sais, ils vont sûrement demander de laisser tomber tout ça.
Non, désolé. Ils n'ont aucune envie de laisser tomber. Ah non, voyez-vous, maintenant, il est trop tard.
Oh, Lowell, tu divagues.
Tu ne crois pas qu'il est temps de commencer à rêver, Marty? Hein? Toutes ces choses que j'aime vont disparaître. C'est un véritable drame. Que vont devenir les forêts? Tu accepterais qu'on abatte les forêts et tous les arbres? Qu'adviendrait-il de nous si un jour ces incroyables splendeurs disparaissent à jamais?
Tout ça est dépassé, Lowell. Ces gens ont autre chose à faire maintenant.
Attention, Venefort, Yorkshire, Sequoia. Ici, les commandements central.
Communiqué spécial, ABC-34-23, décision exécutive. Écoutez ça, les amis. Ici, Neil. Ouvrez vos oreilles. J'ai du nouveau à vous apprendre. On vient de nous donner l'ordre d'abandonner et de détruire atomiquement toutes les forêts, ainsi que de rendre nos navires à des usages commerciaux. Je n'ai reçu aucune précision sur les détails de l'opération, mais elle devra commencer ce matin à 9h précis. Que Dieu ait pitié de nous.
Alors ça y est, on rentre chez nous.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
J'en étais sûr. On balaye tous les dômes et on rentre. Eh ben, salut.
Noël, désolé, tu sais. Mais c'est mieux ainsi.
Insensé.
Allons.
Eh bien non, toutes nos voix s'élèvent pour ne pas laisser détruire les forêts et pour ne pas laisser continuer de détruire la Guyane, pas seulement pour ses forêts, mais aussi pour les gens qui y vivent. Et voilà, je voulais vous présenter cet article de Bernard Bessa dans Union Pacifiste du mois de mai, Union Pacifiste qui est accessible à l'Andarta et au Café des Lys, et dont on aura l'occasion de vous reparler dans d'autres feux de tout bois, et vous pouvez aller voir cet article par vous-même. Bernard Bessa, en effet, a eu plusieurs fois l'occasion d'aller travailler à la télévision guyanaise dans les années 2000 à 2010, et il a été particulièrement, et il est toujours sensible à la souffrance des peuples de Guyane qui ont subi depuis des siècles le mépris et la violence de l'État colonial français. Les mouvements de révolte actuels, dont les médias français se font l'écho, plongent leurs racines dans l'histoire. D'une colonie esclavagiste à une colonie pénale. Dès la fondation de Cayenne en 1643, le gouvernement français applique sa politique coloniale de peuplement. Il cherche des engagés européens, il leur fait signer un contrat de 3 ans qui les lie à leur maître, et les expédie dans un pays d'Amérique latine où le climat équatorial est meurtrier pour eux. Les maladies qu'ils introduisent dans ce pays déciment aussi les peuples autochtones. Pour développer des cultures d'exportation, sucre, épices, café, les sociétés coloniales choisissent alors d'importer, entre guillemets, des esclaves d'Afrique. Ces esclaves sont régis par le sinistre Code Noir. En 1848, sous l'impulsion de Victor Schœlcher, l'esclavage est aboli. Afin de pallier le manque de main-d'œuvre, Napoléon III fonde en 1852 le premier bagne en Guyane. Y sont d'abord déportés des prisonniers politiques et de nombreux communards, une vingtaine et communardes peut-être, et en tout cas dans d'autres endroits aussi. Mais donc ici en Guyane, une vingtaine de camps sont créés pour recevoir tous ceux et particulièrement les pauvres dont la France veut se débarrasser. Les plus connus sont ceux des îles du Salut, où fut enfermé le capitaine Dreyfus, et celui de Saint-Laurent-du-Maroni, décrit par Henri Charrière dans son livre Papillon. Mais la cruauté s'exerce dans tous les camps, c'est la guillotine sèche. Donc dans tous ces camps de travaux forcés, la guillotine sèche des travaux forcés, qui enlève la vie à des milliers de déportés. Seuls 7000 survivront sur les 17000 condamnés. Le bagne n'est fermé qu'en 1938. Les bagnards condamnés à moins de 8 ans de détention peuvent quitter la Guyane après une nouvelle période de 8 ans d'assignation à résidence. Les autres doivent rester en Guyane sans espoir de retour. Et, nous dit Bernard Bessa, on pouvait encore croiser d'anciens bagnards en loc dans les bars de Cayenne dans les années 2000. Des peuples abandonnés sur un territoire exploité. Le Guyanais Félix Eboué, administrateur colonial et gouverneur du Tchad, est le premier à répondre à l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. De jeunes Guyanais rejoignent la France libre et se battent jusqu'en Allemagne avec les armées de libération, entre guillemets. En 2010, au cours d'un reportage, j'ai pu rencontrer, donc Bernard Bessa a pu rencontrer, l'un des survivants médaillés des forces françaises libres. Il m'a raconté qu'il avait été abandonné à son retour en Guyane et avait dû apprendre le métier de jardinier pour survivre. Voilà, quelle reconnaissance habituellement l'État fait aux militaires, aux militaires de la troupe, quoi, hein, puisque les généraux, eux, n'ont pas de problème de se reconvertir en jardinier et de survie. Les Guyanais, Guyanaises font confiance au gouvernement du général de Gaulle et en 1945, Gaston Manerville, député radical socialiste, demande la départementalisation de la Guyane plutôt que de réclamer l'indépendance. Le traitement colonial peut donc continuer. Et le général de Gaulle, en 1965, décide d'installer le centre d'études spatiales à Kourou. Des centaines de travailleurs du Suriname, du Brésil et de 10 autres pays sont importés, entre les mêmes guillemets que les esclaves du Code Noir, pour commencer les travaux en 1965. Ils sont regroupés dans le village de Saamaka, qui deviendra rapidement le plus grand bidonville de la Guyane. Merci, général de Gaulle. Ben voilà, un ancien militaire qui a fait la guerre, qui aurait mieux fait, lui, de faire jardinier plutôt que de prendre le pouvoir et de défendre la France coloniale. Situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de Cayenne, le centre spatial est une enclave de 700 kilomètres carrés dans la Guyane. Depuis le premier lancement de la fusée Véronique en 1968, la zone est entièrement militarisée, donc 700 kilomètres carrés. Elle est surveillée par le 3e régiment de la Légion étrangère, par la DGSE, par la gendarmerie et les milices privées qui protègent les résidences confortables des expats, les étrangers qui travaillent à Kourou. Le lancement de satellites français, européens, russes, brésiliens, coréens est la principale des ressources de la Guyane, mais les recettes ne restent pas sur place. Tout est donc permis à l'administration coloniale pour développer le centre spatial, au détriment des populations locales. Bernard Bessa a pu constater, par exemple, comment la route nationale numéro 1 qui relie Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni le long de l'océan a été détournée sur plusieurs kilomètres en 1990 pour l'éloigner du centre spatial. L'ancien tronçon fait aujourd'hui partie du centre. Il est baptisé route de l'espace et est interdit au public. Les raisons de la colère. Les autorités coloniales ne s'intéressent en Guyane qu'à la vitrine du centre spatial et aux bénéfices de cette industrie. Le village de Saamaka de Kourou est délaissé. Les habitants se souviennent de la visite du président Mitterrand qui avait dit « on tire des fusées sur les toits de bidonville ». Aujourd'hui, les rues sont jonchées d'ordures. Les habitations sont délabrées et manquent même d'électricité. Avant chaque lancement, les habitants des villages alentours sont évacués. Le contraste est saisissant entre les territoires occupés par le centre, bien entretenu, et les espaces abandonnés laissés aux populations locales. Un court séjour en Guyane suffit pour constater les dégâts causés par l'administration coloniale. Toutes les décisions importantes sont prises à Paris. Le commerce est organisé pour enrichir d'abord les sociétés métropolitaines. Dans ce pays couvert de forêts tropicales, le bois est importé de France. Ce qui n'empêche pas les déforestations, bien sûr. Le café du voisin brésilien transite par la France avant d'arriver en Guyane. Les exemples de ce type d'aberration sont multiples et justifient un coût de la vie sans commune mesure avec les revenus des habitants. Heureusement que le petit commerce tenu par les Chinois permet aux habitants de survivre. Le manque criant de services publics dans la santé, l'éducation, les transports, l'énergie pénalisent l'économie du pays. L'accroissement important de la population et surtout des jeunes inoccupés a favorisé la délinquance et l'insécurité. La Guyane est devenue un pays dangereux où les crimes se multiplient. Et Bernard Bessa nous dit qu'il a le souvenir d'une nuit passée dans un hôtel proche de Cayenne où il a appris qu'un meurtre avait été commis dans la nuit. Dans l'hôtel, cela semblait banal au propriétaire qui l'avait annoncé au matin. Le mouvement de revendication. Le conflit social de mars et avril 2017 a été lancé par le collectif « Pour la Guyane décoller », pour que la Guyane décolle, encadré par le groupe des 500 frères sur une revendication de sécurité. Il s'est très vite étendu à des demandes importantes de santé, d'éducation, de circulation, de logement. Grâce à l'excellent travail des équipes de la télévision Guyane Première et aux reportages retransmis sur leur site internet, on a pu suivre au jour le jour le développement de leur mouvement. La mobilisation non violente a été exceptionnellement importante et exemplaire dans son organisation. Malgré les excuses de la ministre de l'Outre-mer et la promesse habituelle du versement d'argent de l'État français pour calmer les manifestants, les démonstrations de protestation ont continué. Il faut dire que les Guyanais, Guyanaises ont trop souvent été trompés par des promesses non tenues. Par exemple, à la demande du chef Aïkou Alemine, porte-parole du peuple le Vaiana, pour réclamer la construction d'un collège à Talwen, indispensable pour aider les enfants amérindiens qui souhaitent poursuivre leurs études sans être obligés d'être envoyés dans des familles d'accueil sur le littoral guyanais où les enfants ne sont, citation de la revendication, ne sont pas surveillés, vont rarement en cours, livrés à eux-mêmes, ils s'adonnent à la drogue, à l'alcool, etc. Le ministère avait promis une construction de collège, mais elle n'a jamais été réalisée. En novembre 2016, un colloque s'est tenu au Sénat français sur la tragédie du taux de suicide chez les jeunes des peuples autochtones, 10 à 20 fois plus élevé qu'en métropole. Et Jocelyn Thérèse, président consultatif des populations amérindiennes de Guyane, a déclaré « C'est une situation de génocide. On a l'impression que notre jeunesse part en fumée. » La sénatrice écologiste Aline Archimbault ajoutait « On s'est rendu compte que le suicide était le symptôme d'un mal-vivre plus général. » Ce mal-vivre, plus que jamais ressenti par les diverses populations locales, toutes représentées dans les manifestations, est dû en grande partie à la gestion coloniale de ce territoire. Les souffrances des Guyanais, Guyanaises se manifestent aujourd'hui dans des revendications pacifiques. Et sans réponse de l'État français, et puis peut-être aussi sans notre solidarité, me permettrai-je de rajouter notre solidarité massive et importante sur toutes les radios locales de France Métropole. Elle pourrait déboucher sur une demande d'indépendance. Sans connaître l'issue de ce mouvement au moment de l'écriture de cet article, conclut Bernard Bessa, mais il est à espérer que les Guyanais et Guyanaises réussiront à se libérer enfin de la violence du joug colonial. Pour suivre les événements sur Guyane Première, il y a un site internet lapremiere.francetvinfo.fr/Guyane. Et la première s'écrit avec un 1, donc je vais l'appeler L-A-1-E-R-E point France TV Info tout attaché point FR Guyane. Donc c'est la télévision Guyane Première. Et pour retrouver cette référence, eh bien Union Pacifiste de mai 2017, qui est, je le rappelle, en consultation à Andarta, et puis aussi dans d'autres endroits. Vous pouvez l'acheter, le faire tourner autour de vous, lire les autres articles dont je vous ai parlé, et aussi le... voilà, et puis on reviendra... On reviendra de toute façon tout au long de ce mois, on l'espère, sur cette union pacifiste pour qu'enfin la paix puisse se répandre dans le monde de plus en plus, que puisqu'il y a un nouveau gouvernement quand même qu'on en parle, que c'est l'occasion d'abolir l'armée, d'abolir de ne plus faire de la France un état colonial. Ce serait vraiment un grand pas en avant pour le genre humain et pour même pour toutes les espèces et pour la planète, que la France, même si ça doit coûter un peu des sous, c'est sûr qu'avoir fait autant d'efforts, être le deuxième exportateur d'armes au monde, et puis se dire bon, en fait c'était de la connerie, de la grosse n'importe quoi, on arrête. Eh ben, c'est sûr que c'est peut-être pas facile pour les financiers, mais quand même, ça vaut le coup d'arriver à imposer ça, voilà, de façon pacifiste, nous dirait de façon pacifique, nous dirait Union Pacifiste, c'est-à-dire d'en parler, de vraiment ne pas soutenir, refuser son soutien à quiconque est pour les frontières, pour que la France continue d'avoir du nucléaire, puisque le nucléaire civil c'est le nucléaire militaire, pour refuser que la France continue d'avoir une armée coloniale et même une armée, dirais-je. Et voilà, beaucoup reste à faire, il y a du travail, voilà, pas besoin de vous inscrire à Pôle emploi pour ça, mais n'hésitez pas à manifester votre pacifisme, celui qui est au fond du cœur de chacun d'entre nous, ça j'en suis sûr et persuadé. Il est 9h10, passé de quelques minutes même sur RDIWA, on va se quitter avec, tiens, allez, c'est l'occasion, puisqu'il me reste un petit peu de temps et j'ai fini mon programme. La lecture d'un livre, mais alors c'est beaucoup plus long que ça, mais ça se télécharge gratuitement sur internet, donc on trouve sur internet des voix bénévoles qui lisent des livres et qu'on peut télécharger gratuitement, parce que ce sont des livres qui sont libres de droit. Et là on va aller commencer avec un extraordinaire auteur, Mark Twain. Et j'ai choisi un livre sur la télégraphie mentale. Alors la lecture totale du livre dure 54 minutes, mais bien là on aura les premières minutes. On se retrouve jeudi prochain en direct et en public sur votre radio 107.5 FM, sur rdwa.fr. D'ici là, le podcast de cette semaine, le podcast des Feux de tout poids depuis le début, depuis le numéro 1. Et de toutes les émissions de la radio du DIWA, rdwa.fr, sont en podcast et en téléchargement libre, gratuit, illimité et infini, tant qu'il y aura internet et de la surface de stockage qui tient le coup. On rappelle la soirée où vous pouvez aller, c'est Réfugiés, rencontre avec Emmanuel Bolella à la Bonnetterie dimanche à 18h30, à la présentation de son livre qui a été publié en allemand il y a 3 ans et maintenant traduit en français, et puis de rencontrer l'auteur, de parler de ces questions de migration. Et c'est une des façons d'en finir avec les frontières, puisque ces réfugiés sont là pour nous prouver que les frontières n'existent pas et qu'elles sont dans nos têtes. Est-ce que le ciel a des frontières? Ne couvre-t-il pas le monde entier? Pourquoi sur Terre des barrières et pourquoi d'éternels sacrifiés? Ces éternels sacrifiés, c'est nous, donc abat toutes les frontières, et puis même la frontière du temps qui nous permet de retrouver Mark Twain.
Mark Twain, la télégraphie mentale. Mai 78. Il vient de m'arriver un de ces événements insignifiants qui étonnent et vous laisse rêveur au moins pendant quelques heures. Une de ces coïncidences que notre esprit ne peut définir et qui reste sans explication. En voici un exemple. Je suis obligé de reconnaître que le fait est d'importance médiocre. Il y a quelques jours, je pensais en moi-même, Frank Millet ignore certainement que nous sommes en Allemagne. Sans cela, il nous aurait écrit depuis longtemps. Voilà 6 semaines que je suis chaque jour sur le point de lui envoyer un mot, et je remets toujours au lendemain pour voir si je ne recevrai rien de lui. Mais maintenant, je suis décidé à lui écrire. Ainsi dit, ainsi fait, et j'adressais ma lettre à Paris en faisant cette réflexion. Oh, certainement, nous aurons de ses nouvelles avant que cette lettre ne soit à 50 miles d'Heidelberg. Le contraire m'étonnerait beaucoup. Mais voici précisément le hic. Pourquoi les faits se passent-ils ainsi? C'est là l'énigme. Nous parlons toujours de lettres qui se croisent et nous considérons ce fait comme un accident ordinaire de la vie. Mais en l'appelant accident, nous faisons une erreur grossière. Certainement, nous avons 12 fois par an le pressentiment que la lettre que nous écrivons croisera la réponse que nous destine la même personne. Et si le lecteur veut bien fouiller dans sa mémoire, il reconnaîtra que cette intuition a eu souvent assez de force pour l'amener à n'écrire qu'un simple billet laconique, parce qu'il préférait ne pas perdre son temps à rédiger une épître qui devait se croiser avec la réponse attendue. Je crois que, pour ma part, cette intuition m'est venue lorsque, dans certains cas, j'avais remis une lettre au lendemain avec l'espoir que mon correspondant m'écrirait. Donc, pour en revenir à ma première histoire, j'avais attendu 5 ou 6 semaines, puis j'écrivis 3 lignes à Millet, pressentant qu'une lettre de lui croiserait la mienne. C'est ce qui advint. Il écrivit le même jour que moi, et nos lettres se croisèrent. La sienne alla à Berlin, adressée au ministère d'Amérique qui me la fit parvenir. Millet me disait que depuis 6 semaines, il avait vraiment cherché quelqu'un qui connût mon adresse en Allemagne, et finalement il s'était dit qu'une lettre adressée à l'ambassade à Berlin me serait peut-être renvoyée. Peut-être faut-il attribuer à une simple coïncidence qu'il se soit décidé à m'écrire au moment où j'allais en faire autant de mon côté. Cependant, je ne le crois pas. Ce qui m'a le plus exaspéré à cette occasion a été certainement de perdre un temps précieux en attendant que Millet m'écrive, puis de penser que j'allais me mettre à mon bureau au moment précis où mon correspondant s'asseyait devant le sien pour m'adresser une lettre qui devait se croiser avec la mienne. Et pourtant, il faut écrire tout de même. Car si vous quittez votre bureau et remettez au lendemain, l'autre en fait autant de son côté. Il semble que vous soyez solidaires l'un de l'autre, comme l'étaient les frères siamois dans leur mouvement combiné. Quelques mois avant mon départ, un fournisseur de New York fit chez moi une installation qui ne me parut pas réussie. Lorsque vint la note, j'écrivis que je paierais lorsque le travail serait complètement terminé. On me répondit que, pour le moment, on était débordé, mais que, dès que ce serait possible, on m'enverrait un ouvrier habile pour tout mettre au point. J'attendis plus de 2 mois, supportant avec patience des sonnettes qui carillonnaient, souvent sans qu'on y touchât, et qui à d'autres moments restaient muettes malgré mes appels désespérés. Plusieurs fois, je voulus écrire et chaque fois je remis. Mais un beau jour, je me décidai et déversai ma bile sous forme d'une lettre bien sentie. Puis je m'arrêtai subitement, convaincu qu'au magasin, on commençait à penser à moi. Lorsque, le lendemain matin, je descendis déjeuner, le facteur n'avait pas emporté ma lettre, mais l'électricien était venu, avait fait son travail et disparu. Il avait reçu des ordres la veille au soir et était venu par un train de nuit. Si c'est une coïncidence, il a eu en tout cas fallu 3 mois pour lui permettre de se réaliser. L'année dernière, arrivé à Washington, un soir, je descendis à Harrington Hotel et gagnai ma chambre. Je lus et fumais jusqu'à 10 heures. Puis, n'éprouvant aucune envie de dormir, j'eus l'idée de prendre l'air. Je sortis, malgré la pluie, et j'errai à travers les rues en goûtant tout le plaisir de l'inconnu. Je savais que mon ami M.O. habitait la ville et j'avais le désir de le rencontrer. Mais je ne pouvais songer à le trouver à cette heure avancée, d'autant plus que j'ignorais son adresse.